Chapitre 15. La petite reine chez elle. Pierre se disait « Pourvu que Lucette soit près de moi à table ». Il aurait pu se dispenser de toute inquiétude à ce sujet, car Lucette réglait dans sa maison tout ce qui lui plaisait de régler, et elle avait arrangé les places autour de la table élégamment servies, brillantes d'argenterie, de cristaux et de fleurs, où l'on était 8, 2 grands-mamans, 2 grands-papas, papa et maman, 2 blessés, tout ce qu'il y a de plus symétrique. Pierre se trouva à l'un des bouts, avec Lucette à angle droit d'un côté et l'excellent M. Dupin de l'autre. Il ne se sentit pas gêné un instant, car tous les petits détails du couvert étaient arrangés comme il en avait l'habitude à la ferme. Lucette insista beaucoup sur sa manchoterie, comme elle disait. Elle donna une foule d'indications à son père qui lui coupait sa viande, et le grand-papa Dupin recueillit ces indications pour aider à Pierre. Lucette s'arrangea aussi à faire de petits commentaires sur chaque plat, de façon à ce que Pierre fût renseigné. Elle commit exprès une ou deux maladresses afin d'attirer l'attention sur elle-même plutôt que sur Pierre, qui, du reste, n'en fit aucune. La maman et les deux grands-mamans contemplaient leurs blessés d'un œil attendri. Grand-papa Martin, qui suivait les opérations de guerre dans le journal de Genève et ne jurait que par le colonel Feller, mit tout de suite la conversation sur les exploits des régiments de chasseurs alpins. Il en parla si bien que Pierre y trouva un vif intérêt, lui qui, en général, comme d'ailleurs tous les soldats, n'admirait pas beaucoup les commentaires des civils sur les combattants. Sur 2 ou 3 points, il corrigea une inexactitude. Tel et tel régiment n'avait point pris part à telle action, mais à tel autre le même jour. Il le savait, car il y était lui-même. Cependant, il parla peu, attentif à observer ce qui se passait et se disait autour de lui, apprenant à distinguer les voix douces un peu cassées des deux grands-mamans, les petites phrases aimables mais plaintives de Madame Martin, le pas léger et le froufrou de la femme de chambre à droite qui se penchait sur lui pour le servir. Lucette interrompait une explication stratégique pour s'écrier « Des crevettes en mayonnaise, tout ce que j'aime. Maman, tu es une fée !» Comme cela, Pierre savait, avant même d'y avoir goûté, que ces petites boules rencontrées par sa fourchette dans une sauce somptueuse étaient des crevettes en mayonnaise. « Je croyais que la mayonnaise était interdite par le méchant Conseil fédéral, » poursuivit Lucette de son ton le plus enfant gâté, un ton qu'elle avait perdu à la ferme les derniers temps. « La mayonnaise est interdite dans les hôtels, mais chez soi, on fait ce qu'on veut, » dit M. Martin. « Ce qu'on veut, vous exagérez, mon gendre !» s'exclama le grand-papa Dupin. « Avec les pleins pouvoirs qu'il opprime, quel citoyen fait encore ce qu'il veut ?»« On m'a refusé un passeport pour aller visiter la petite vigne de grand-maman en Savoie. »« On m'a refusé une autorisation d'importation pour un petit tonneau de caviar que j'avais commandé et déjà payé à Moscou. »« Cette révolution russe a de grands inconvénients. »« Ah oui !» soupira Madame Martin. « La situation est pénible. Par bonheur, nous sommes un peu approvisionnés. »« Ma bonne amie, » dit son mari, « je ne voudrais pas qu'un inspecteur fédéral pénétrât dans ta dépense et qu'il fît un inventaire de tes provisions. »« J'aurais été criminelle, » fit Madame Martin de sa voix douce, qui tremblait un peu quand on effleurait la question des approvisionnements. « J'aurais été criminelle si je n'avais pas mis ma famille à l'abri des privations pour l'hiver prochain. » « Si j'étais seule, cela n'aurait pas d'importance. Mais nous sommes 3, songe un peu. Avec tout le travail cérébral que tu fais, mon ami, quel besoin n'as-tu pas d'un régime réparateur ? J'ai étudié le sujet scientifiquement. Je sais qu'il faut à l'organisme, outre les féculents, des hydrocarbones. Je crois que cela s'appelle. Enfin, des huiles, des graisses et du sucre. Et c'était si facile d'en avoir avant la guerre. » « Ah oui, cette terrible guerre !» gémit la grand-maman Dupin qui parlait peu, étant sourde, mais qui saisissait toujours le mot « guerre » au passage. « Toutes nos habitudes sont dérangées, » poursuivit le grand-papa Martin, mais il s'interrompit tout à coup. De sa place à l'autre bout de la table, en face du jeune soldat aveugle, il s'avisa tout à coup que d'autres existences que la tienne étaient dérangées par le cataclysme. Une minute après, s'étant ressaisi, il disait « Ne nous plaignons pas, notre Suisse est privilégiée. » « Elle mérite de l'être, dit Pierre avec chaleur. Que ferait l'Europe sans cette oasis qui recueille nos prisonniers, nos malades, qui restaure et habille au passage nos rapatriés ?»« Merci !» s'exclama avec élan M. Martin. « De la part d'un soldat français, ces paroles nous font plaisir. » Mais tant d'autres choses, moins belles, moins louables, se passent dans l'oasis dont la capitale est Berne. « Mon ami, ne te mets pas à parler politique en dînant !» s'écria sa femme alarmée. « Tu sais bien que cela te congestionne !»« Maman, pourquoi as-tu fait mettre une fricassée de pigeons ?» s'écria Lucette douloureusement. « Avec une seule main, comment veux-tu que je me débrouille dans tous ces petits os ?» « Ton papa va t'arranger ça, ma fille. Tu ne trouveras pas un seul petit os, » dit M. Martin en attirant devant lui l'assiette d'où montait l'arôme fin du beurre et d'un jus exquis. Le grand-papa Dupin aussitôt en fit autant pour l'assiette de Pierre et celui-ci en lui-même devinait bien que Lucette exagérait un peu de sa dépendance pour qu'il sentît moins la sienne à lui. Le dîner fut assez long. On força Pierre à reprendre du filet des pommes de terre frites que la cuisinière avait mises exprès pour lui, ayant entendu dire que, sur le front, les soldats français mangent du riz plus souvent que des frites. Pierre devinait une foule de petites attentions. Au dessert, il y eut une bombe glacée. « Nous aurions voulu la voir tricolore, » dit Madame Martin, « mais Catherine ne savait comment colorer la tranche bleue. » « Bleu de lessive, c'est bien simple, » dit son mari. Madame Martin négligea cette remarque oiseuse et reprit. « Alors, on l'a faite. C'est Catherine qui y a pensé. Pistache et citron, donc vert et jaune. » Ruban de la médaille militaire. On me permettra de remercier Catherine pour cette attention, dit Pierre, à la fois amusé et touché. Et c'était gentil aussi, cette idée de lui décrire la bombe glacée sans en avoir l'air. Des raisins magnifiques, une primeur, firent s'exclamer les deux grands-mamans. « C'est de ma petite serre, » déclara M. Martin, non sans orgueil. « Ce chasselas est mûr en général à la fin de juin. Cette année, nous avons dû supprimer la lumière électrique pendant la nuit, qui l'avance énormément. Mais quoi, c'est la guerre !»« Cette terrible guerre !» soupira de nouveau la grand-maman Dupin en saisissant le mot fatal. « Papa, il faudra que tu tiennes la grappe pendant que je picote, » déclara Lucette. « Êtes-vous vraiment aussi impotente que ça, mademoiselle Lucette ?» demanda Pierre avec inquiétude. « Je sais bien que votre bras est en écharpe, mais j'espérais que vous pouviez vous servir de votre main. »« Elle se rend intéressante, » dit son père, « comme c'est le premier accident qu'elle a de sa vie. » « Mon ami, tu oublies qu'à l'âge de 11 mois, elle est tombée de sa petite voiture, » s'écria sa femme. Et qu'à 5 ans, elle s'est écorchée le genou droit à tel point qu'on a dû appeler le docteur. À 7 ans, dit grand-maman Martin, elle a été piquée par une guêpe sur la paupière gauche. À 8 ans, continua grand-papa Martin, une bécane l'a renversée dans la rue sans lui faire de mal, heureusement. À 12 ans, fit grand-papa Dupin, elle a avalé un noyau de prune qui a failli l'étouffer. À 15 ans, poursuivit grand-maman Dupin, en boitant le pas la dernière, Lucette est tombée de l'escalier du galetas et s'est foulée la cheville. Et alors, conclut l'héroïne elle-même, ayant échappé à tous ces dangers, je me trouvais vivante à 18 ans, tout exprès pour être retirée d'un précipice par M. Pierre. Une sorte de frisson tragique passa autour de la table, la femme de chambre s'arrêta de passer les bonbons. « Tu oublies, ma chérie, » dit sa mère d'un ton pénétré, « que nous ne savons encore rien de ton accident. Nous désirons connaître toute la mesure de nos obligations envers vous, cher soldat, » fit l'aimable grand-papa Dupin. « Je vous assure, » commença Pierre, « que c'est au contraire par ma faute. » Mais Lucette l'interrompit. « Ah, ne me gâtez pas mon récit. Maman, si nous prenions le café dans la véranda, » Nous serions tous là, en rond, nos messieurs fumeraient leurs cigares, et alors je vous conterai le chapitre le plus intéressant des mémoires d'une enfant gâtée. » Elle conta cela très bien, dans le cercle palpitant de sa famille, sous la clarté douce des 3 lampes électriques, habillées en lanternes chinoises multicolores. une grande gerbe de roses tardives s'élançait d'une potiche et mêlait son parfum à l'arôme luxueux d'excellents cigares. Derrière le vitrage, de larges feuilles d'aristoloche et les lances découpées de la clématite dessinaient leurs silhouettes mouvantes. Les grands-mamans et la maman avaient tiré des pelotons de leurs sacs de soie et tricoté très vite de petits bas pour les enfants des réfugiés. Mais les aiguilles tombèrent plus d'une fois de leurs mains. « Je demande la permission de dire un mot, » fit Pierre vers la fin du récit. « Mademoiselle Lucette ne vous dira pas à quel point elle a été brave. Sans sa vaillance, que serions-nous devenus? Si elle s'était montrée nerveuse, ce qui eût été bien naturel, si elle avait refusé de se déplacer sur la corniche, si elle s'était laissée aller au vertige quand elle dut se dresser et passer la corde sous ses bras, si elle avait manqué de sang-froid, ni Rick ni moi, nous n'aurions pu la sauver. Nous avions le rôle facile, mais Mademoiselle Lucette, elle, fut vraiment héroïque. Grâce à Dieu, prononça grand-maman Martin, les femmes de notre famille n'ont jamais manqué de courage quand il en fallait. « Il me semble, » fit doucement la maman de Lucette, « que vous en avez montré tout autant, cher monsieur Pierre, quand vous avez remonté seul ce mauvais sentier qu'un précipice bordait. Vous risquez votre vie même en allant chercher du secours pour notre fille. »« Cela, nous ne l'oublierons jamais, » déclara monsieur Martin d'une voix forte. Il vint à Pierre, lui serra énergiquement la main, et les deux grands-pères en firent autant. Alors, la grand-maman Martin, la plus impulsive, se leva. « Cher, cher garçon » murmura-t-elle. Puis elle l'embrassa sur les deux joues.